Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Michel Chevalet est aujourd'hui l'invité de Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. Si j'en crois les messages qui nous parviennent, nos auditeurs sont ravis de cette invitation. Comme l'écrit Audrey, ce ne sera plus comment ça marche, mais comment ça vole. Puisqu'en effet, nous allons aujourd'hui nous plonger dans la fantastique aventure des débuts de l'aviation, à commencer par l'expérience extraordinaire d'un certain Clément Ader. C'était en 1890.
Et puis à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Laurane sur l'origine des chiffres porte-bonheur et des chiffres porte-malheur.
Alors ça, je ne suis pas persuadé d'être le plus grand expert de la question. J'essaierai de répondre à Laurane. Et avant cela, nous allons essayer de porter bonheur à ceux qui font décoller des engins plus lourds que l'air.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Nous sommes le 9 octobre 1890 et monsieur Clément Ader s'apprête à tenter un grand exploit, faire décoller un engin plus lourd que l'air. Cet engin s'appelle Éole. Éole, référence directe au dieu grec, le dieu des vents, bien entendu. Quand je dis engin, c'est une espèce de drôle d'armature, ça ressemble à une chauve-souris. J'ai les dessins de profil, de face et du dessus. Je les ai là sous les yeux et le moins qu'on puisse dire est que c'est assez impressionnant. Imaginez une sorte d'énorme roussette, vous savez, les grosses chauves-souris. Là, c'est un prototype, bien entendu, dont l'envergure totale fait quand même 14 mètres. Des armatures de bois recouvertes d'une membrane de soie fixée quand même par 6500 boutons. Alors les ailes ne battent pas, contrairement à celles d'un certain nombre d'engins qui ont été essayés dans le passé. Elles sont orientables néanmoins en vol à l'aide de tout un système de manivelles et de poulies. Le fuselage, si tant est qu'on puisse appeler ainsi l'espèce de corps de l'appareil, est recouvert de soie. Il repose sur trois roues. Il y a là-dessus des pédales qui commandent la direction au sol. Et une hélice de bambou à quatre pales, actionnée par un moteur à vapeur qui a été inventé par monsieur Ader en personne, chaudière à tube d'une puissance de 20 chevaux quand même. Impossible de gouverner l'appareil en vol, c'est-à-dire que si vraiment ça décolle, on ne sait pas trop dans quel sens ça va partir. L'ensemble quand même pèse 295 kilos, vous imaginez. Alors, on a achevé le prototype il y a quelques jours seulement, et il est grand temps maintenant de l'essayer sur le terrain même des mécènes de monsieur Ader, puisque ce sont les jardins du château de Grèzes-Armainvilliers dans l'est de Paris qui vont servir de cadre à cette extraordinaire expérience. Il faut savoir que ce château d'Armainvilliers appartient au banquier Perrer. Alors imaginez une piste de 200 mètres de long, 25 de large, piste qui a été aménagée un peu à la sauvage, comme ça, au milieu du Grand Parc. Voilà ce qu'écrit Ader dans son journal. « Une aire fut tracée en ligne droite, le terrain dégazonné, battu, égalisé au rouleau de manière à enregistrer et faire voir les traces des roues depuis les plus petits allègements jusqu'au soulèvement complet. » Oui, vous m'avez compris, il va être nécessaire pour savoir si l'appareil en question décolle, il va être nécessaire d'observer les traces au sol. J'ai eu la chance, vous savez, ça fait plus d'une vingtaine d'années, d'interviewer un vieux monsieur. Je dis un vieux monsieur, il avait 104 ans à l'époque, il s'appelait Benjamin Renard, et sur le terrain d'ici les Moulineaux, lorsqu'il était enfant, il avait eu la chance de faire partie des tout premiers témoins de l'aventure aéronautique, puisque avec ses camarades, on l'installait dans le champ, sur le terrain d'aviation, on les installait tous les 15 mètres et ils étaient à plat ventre, ils regardaient le sol et ils étaient chargés de dire si oui ou non les trains d'atterrissage, si oui ou non les roues des appareils décollaient. Vous imaginez, on est vraiment dans les tout premier balbutiement de l'aéronautique. Ben là, c'est encore plus étonnant que ça. On a des témoins, mais qui sont tous au même endroit, et on va surtout observer au sol si oui ou non il y a encore des traces. Alors, il a fallu l'acheminer, l'éole, quand même, hein, jusqu'au château des Pereire. On l'a amené dans une sorte d'énorme roulotte pendant la nuit du 8 au 9 octobre. Ça a été un transport assez folklorique. On a remonté l'appareil, tant bien que mal, pendant toute la fin de la nuit et le début de la matinée, dans un hangar improvisé près du château. Et au début de l'après-midi, ben ça y est, l'éole est amené et conduit jusqu'à la piste. Il n'y a pas de vent, et ça c'est ce que souhaitait Adair, parce qu'il sait très bien que son appareil n'est pas très facile à faire manœuvrer. Et une fois l'avion en place, eh bien on prévient Monsieur Adair. « Tout est paré, Monsieur Adair, j'ai allumé les brûleurs », lance Espinosa, qui est un des contremaîtres. Alors Monsieur Adair monte dans l'appareil, son chapeau vissé sur la tête, il s'installe sur la selle qui fait office de siège et il met le moteur en route. Vous l'imaginez, ce moteur qui ronfle, qui entraîne peu à peu l'immense hélice. Les ouvriers qui sont là placés à mi-distance sur la piste scrutent, ils attendent. Il est 16h04, Monsieur Adair s'élance. Eh bien, avant de voir si l'appareil va décoller, j'aimerais que nous nous posions la question de savoir qui est ce fameux Clément Adair. Il est né 49 ans plus tôt, figurez-vous. Il est né au temps de Louis-Philippe, le 2 avril 1841. Son père tenait un atelier de menuiserie à Muret. Muret, c'est une petite ville de Haute-Garonne. Et d'emblée, cet enfant est apparu comme ce que nous appellerions nous aujourd'hui un surdoué, excellent en maths, très bon en dessin également. Alors qu'il est élève en pension à Toulouse, il fait l'admiration de ses professeurs et il a réfléchi, il se dit qu'une heure de diligence pour parcourir les 18 kilomètres qui séparent Muret de Toulouse, ça fait beaucoup. Alors on est en 49 et à l'époque le chemin de fer n'est pas arrivé jusque là, donc il ne connaît même pas le chemin de fer ce gamin. Mais lui, ça n'est pas au rail qu'il rêve, c'est à l'air. Il rêve de voler. Il a demandé à son grand-père pourquoi, les hommes étant capables de nager comme des poissons, pourquoi ne sont-ils pas capables de voler comme des oiseaux? Ces oiseaux qu'il observe, qu'il regarde, qu'il admire depuis son plus jeune âge, en essayant de comprendre leur évolution. Vous savez, son prof, un professeur lui a infligé un pinsum parce qu'il s'était attardé dans la cour du collège à regarder des pigeons qui volaient, justement. Vous voyez, quand je vous dis que c'est une passion. Alors, le professeur lui a infligé 100 lignes, tiré des Métamorphoses d'Ovide, et voilà ce qu'il fallait écrire et réécrire et réécrire encore. Icare, fils de Dédale, fut enfermé par ordre de Minos avec son père dans le labyrinthe de Crète. Dédale réussit à s'échapper en emmenant son enfant. Tous deux s'étaient envolés au moyen d'ailes faites de plumes d'oiseaux assemblées avec de la cire. Icare, malgré les conseils de son père ayant voulu s'élever trop haut, les rayons du soleil firent fondre ses ailes et il tomba dans la mer qui depuis porte son nom, la mer Icarienne. Et bien depuis ce jour-là, le petit Adair, qui va devenir le grand Adair, s'identifie à Icare.
Sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film « Ces merveilleux fous volants dans leur drôle de machine » composée par Ron Goodwin. On vous retrouve, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur le futur inventeur et ingénieur français Clément Adair.
Vous savez, ce qu'il y a d'étonnant avec les personnes très passionnées, c'est qu'elles sont capables de transmettre leur passion et de repérer dans leur entourage ceux qui pourraient les aider, ceux qui pourraient partager le même intérêt. C'est exactement ce qui se passe avec le jeune Clément Adair, qui a repéré parmi les ouvriers de son père un certain Joseph Baquier, passionné de questions aéronautiques, enfin si tant est qu'on puisse ainsi s'exprimer pour l'époque, mais en tout cas passionné par cette aventure qui consisterait à faire voler un objet plus lourd que l'air. Je dis plus lourd que l'air parce qu'évidemment des montgolfières, des ballons, hein, des aérostats, ça fait déjà un petit moment qu'on en fait voler, même beaucoup. Mais là, en l'occurrence, il s'agirait de faire faire décoller un engin. Vous imaginez une machine qui ne serait pas portée par un gaz quelconque. Ça, c'est assez étonnant. Alors, Joseph Bacquier va l'aider à fabriquer toute une machine. Alors, avec de la lustrine, des baleines qu'on a tirées de vieux parapluies. Il faut savoir que les parapluies étaient grands comme des parasols quasiment à l'époque. Donc, évidemment, les baleines étaient plus amples que celles de nos petits parapluies pliants. Ils vont confectionner des ailes souples, des ailes résistantes, afin de tenter la grande expérience. Ça a lieu dans la prairie qui descend vers la petite rivière locale qu'on appelle la Louge. Le vent souffle par violentes rafales, ce qui est tout à fait propice à ce genre d'expérience, bien entendu. Et l'on voit le petit Clément qui se jette dans le vent. Le vent l'emporte, il est empêtré lui-même dans sa lustrine. Il va s'écrouler un peu plus loin, sans grand dommage. On peut dire que ce jour-là, Clément Ader aura eu plus de peur que de mal. C'est néanmoins, vous voyez, je vous raconte cette petite anecdote pour vous montrer jusqu'à quel degré, jusqu'à quelle incandescence il peut porter cette passion de voler. Il faut vous dire que c'est un esprit fertile, par ailleurs. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un surdoué, c'est quelqu'un qui est constamment dans l'invention, l'imagination, c'est un inventeur, c'est un géotrouve-tout, si vous voulez. Il va créer d'ailleurs des appareils en tout genre, il a été employé en 1861 à la Compagnie des chemins de fer du Midi, eh bien, il invente une machine à poser et à enlever les rails. Une machine qui d'ailleurs est tellement efficace qu'elle va être reprise par un certain nombre d'autres compagnies, et le brevet qu'a déposé Clément Ader va lui rapporter pas mal d'argent. En 1876, il invente par ailleurs un rail sans fin. Alors ça, c'est assez étonnant. Vous avez un véhicule qui emporte, si vous voulez, son rail avec lui. Le rail se déroule devant les roues à mesure qu'avance le véhicule et il se replie derrière. En quelque sorte, si l'on veut, c'est l'ancêtre de la chenille, tout simplement. La chenille des chars d'assaut et des voitures qu'aigresse, etc. Bon. Le 28 juillet 1878... on voit notre Clément déposer un brevet pour un système de correspondance électrique qu'on appelle l'électrophone. Ah, ça c'est intéressant, c'est un travail sur les sons et la reproduction des sons. Il va devenir 2 ans plus tard le dirigeant d'une entreprise qui s'appelle la Société Générale des Téléphones. Le nom est né. Il faut vous dire qu'on est exactement à l'époque où de l'autre côté de l'Atlantique, Edison est en train de faire, lui, ses propres travaux, ses propres inventions. Tout ce qui concerne la transmission du son par la reproduction, d'ailleurs, devrais-je dire, du son par des modalités électriques passionne, évidemment, les inventeurs de l'époque. C'est Clément Ader qui est à l'origine d'une invention qui n'aura pas une immense postérité, mais qui à l'époque a fait beaucoup de bruit au propre comme au figuré. C'est ce qu'on appelle le théâtrophone. On installait un système de micros, des très gros microphones, sur la scène de l'opéra, et ça permettait d'entendre le spectacle sans bouger de chez soi. Et vous connaissez sans doute le plus célèbre des abonnés du théâtrophone, puisqu'il en avait fait quasiment une passion lui-même, c'était Marcel Proust, qui tous les soirs écoutait comme ça les représentations sans avoir besoin d'aller se mêler à la foule de l'opéra, ce qui l'arrangeait bien. Ce qui attire néanmoins, alors il a quand même récupéré pas mal d'argent grâce à tout ça, monsieur Ader, puisque il a une petite cagnotte de 8000 francs or, ce qui à l'époque, à la fin des années 1880, au milieu des années 1880, constitue beaucoup d'argent. Or, ce qui l'attire, vous l'aurez bien compris, lui, ce qui l'attire véritablement, ce sont les airs. En 1873, avec un ingénieur qui s'appelle Dwarch, il s'est lancé dans la construction d'un nouvel appareil volant. Imaginez une sorte de cerf-volant géant qui ressemble encore une fois à un oiseau. C'est intéressant de voir à quel point, évidemment, pour le moment, on n'est pas capable de s'abstraire du modèle de l'oiseau. C'est-à-dire que toutes les machines plus lourdes que l'air qui ont essayé de voler depuis Léonard de Vinci ont toujours, d'une manière ou d'une autre, copié des animaux volants. Alors, des oiseaux essentiellement, mais aussi parfois des mammifères. Je pense évidemment aux fameuses chauves-souris qui ont beaucoup inspiré tous ces apprentis sorciers. Alors, donc, un cerf-volant géant, dans ses notes, Ader parle d'un oiseau artificiel à la forme aérodynamique, vous voyez. Bon, alors, le jour de l'essai, il y a un vent puissant, la machine est accrochée à des piquets, l'appareil ne peut se déplacer que latéralement, et il reste libre de monter et de descendre simplement. Ce qu'on veut observer, c'est s'il est capable de voler. En oubliant quand même la principale des conditions pour que ce genre d'appareil vole, c'est-à-dire précisément la force de l'élan, l'avancée. Mais là, pour l'instant, Ader n'a pas encore saisi ça. Alors, l'expérience va réussir, elle réussit, puisque l'appareil se soulève, il se soulève du sol. Vous vous dites à combien ? 17 mètres ? 25 mètres ? Non, non, 1m40. Mais enfin, c'est déjà pas mal. L'appareil est en lévitation, si je puis dire, à 1m40 au-dessus du sol. Il faut l'imaginer, cet avion, puisque ça y est, le mot est né, c'est le terme qu'emploie Clément Ader, cet avion a commencé à décoller. Nous, aujourd'hui, ça nous fait sourire, hein, tout ça, il faut bien le dire, c'est totalement pittoresque, tout ce genre d'expérience. Mais remettez-vous dans l'esprit des gens de l'époque, non seulement eux, ça les fait pas sourire, mais ça les passionne, mais ça les captive. L'avion, puisqu'on peut employer ce terme, est envoyé à Paris où il va être photographié, mitraillé par le photographe Nadar. Entre parenthèses, encore une belle invention qui est en train de prendre son envol, si je puis dire. L'avion est exposé en plein Paris où il est l'objet de la curiosité générale puisqu'il reçoit notamment la visite de Georges Clemenceau en personne. Clemenceau a toujours été intéressé par les innovations, etc. On a pu le constater au moment du percement du canal de Panama, mais enfin je ne me risquerai pas sur ces terrains glissants. Preuve que le jeune monsieur Ader n'est pas seulement regardé comme fantaisiste, on peut dire qu'il est devenu une sorte de référence parmi les ingénieurs de sa génération. Ce qui veut dire qu'au moment où il va se lancer là bientôt sur notre appareil, sur l'Éole en 1890, son expérience sera regardée avec le plus grand sérieux.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Un pionnier de l'aviation est au cœur de l'histoire. Vous évoquez Franck Ferrand, Clément Ader et son avion baptisé Éole inventé en 1890.
Et oui, et je n'ai pas encore eu le temps de vous dire que Ader n'est pas le premier qui ait eu l'envie comme ça de faire voler un engin. Le premier que l'on songe, c'est bien sûr toujours Léonard de Vinci, même s'il y aurait énormément à dire sur les dessins qu'a pu laisser Léonard à ce sujet. Il y a eu, alors lui on n'en parle quasiment jamais, un certain Beignet du Maine. On est là en 1678, sous le règne de Louis XIV. Beignet du Maine est on appelait ça à l'époque un serrurier, mais on pourrait appeler ça aujourd'hui un ingénieur praticien. Il estime possible de voler en utilisant des mouvements similaires à la nage. Alors, il a fait toute une invention, hein. Il s'est installé deux bâtons sur les épaules, avec quatre châssis de taffetas oblong et deux cordes attachées aux chevilles. Alors vous dites, le pauvre, il risque pas d'aller loin. Et en vérité, bien sûr, Beignet du Maine ne vole pas, mais quand même, il parvient à planer sur de longues distances et l'on dit qu'il réussit quand même à survoler des maisons. Donc, vous voyez qu'on est quand même dans quelque chose qui aurait pu aboutir. Ça, c'était donc fin du XVIIe siècle. Quelques décennies plus tard, au milieu du XVIIIe, le marquis de Bagueville, qui est un excentrique qui est connu dans tout Paris pour ses frasques, et ça, il a la réputation d'un coureur de jupons, le marquis de Bagueville a inventé une sorte de planeur dont les ailes adoptaient la forme que la religion prête aux anges, dit-il. Alors, on le voit, lui, s'élancer du toit de sa maison. Il tente d'atteindre l'autre rive de la Seine. Ah, il n'ira pas tout à fait jusque-là, puisqu'il va se fracasser contre le bateau d'une lavandière qui était là sur le bord de la Seine. Il se casse la jambe. Bon, ça aurait pu être plus grave. Mais enfin, vous voyez, lui aussi, il a quand même réussi à planer un petit peu. Il faudrait aussi parler, alors il y en aurait beaucoup, une de ces inventions, le vaisseau volant de Blanchard, par exemple. Là, on est en 1781, sous le règne de Louis XVI. Blanchard consacre toute sa vie, on peut dire, toute sa fortune à ce projet, avec l'abbé Viennet qui est là avec lui et qui travaille avec lui. Son invention, c'est la chose suivante. Imaginez une nef surmontée d'un pylône où tournent de vastes voilures. Alors les voilures, il faut les faire fonctionner à la force des bras, hein, quand même. Alors ça tourne, ça fait beaucoup de vent, évidemment, sauf que ça ne décolle pas tellement. Blanchard réfléchit un moyen d'intégrer la vapeur à son projet. Il va enfermer de la vapeur dans une sorte de pompe à feu pour faire tourner l'hélice. Entre parenthèses, je me permets de vous dire qu'on est là en 1781. C'est la machine à vapeur hein, que Monsieur Blanchard est en train de réinventer d'une certaine manière. Alors, on pourrait parler des inventeurs qui, au 19e siècle, ces mystérieux fous volants, comme vous disiez tout à l'heure, Omblin, par référence au joli film, qui ont tenté de relever ce défi des oiseaux, avec cependant toujours un petit côté apprenti sorcier. Ça n'allait jamais très loin et c'était toujours un peu dangereux ce qu'il faisait. Clément Ader, lui, est beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus méthodique. Il commence par observer les animaux. Alors quand je dis qu'il observe les animaux, il voyage pour ça. On le voit en Alsace observer les cigognes. C'est pratique les cigognes parce que c'est un grand animal déjà gandé. On voit très bien comment ça vole. C'est très facile à observer. Il faut imaginer Ader à Strasbourg s'installant sur la plateforme forme d'une des tours de la cathédrale. Il réalise des croquis. Le problème, c'est qu'on est dans l'époque de l'occupation allemande en Alsace, bien entendu. Et un officier allemand est intrigué. Il saisit les carnets d'Ader et il l'emmène devant le général qui commande la place. On le soupçonne d'espionnage. C'est toute une histoire. Il va finalement être libéré, mais c'est quand même compliqué. Chez lui, à Auteuil, dans son jardin, il réalise une volière où sont enfermés toutes sortes d'oiseaux. Et ces oiseaux, on le voit les endormir à l'aide d'un tampon de chloroforme pour pouvoir les étudier de plus près et comprendre leurs secrets. On le verra aussi en Algérie où il va étudier le vol des grands rapaces. Et c'est là qu'il constate, qu'il observe l'utilité du vent. Et il voit notamment l'histoire des courants ascendants, descendants, qu'il appelle les voies aériennes déjà. Vous voyez, il est aux origines là de l'aviation. Et puis de retour en France en octobre 81, il installe donc son atelier avec quatre hommes, avec Baquier, hein, qui est toujours là bien sûr, mais Garnier, Vallier, Pelletier et l'Espinosa dont je vous parlais tout à l'heure. Ils travaillent en secret dans un jardin, ça va durer 7 ans, donc jusqu'à ce 9 octobre 1890 dans le parc de Grèzes-Armainvilliers. L'avion donc, je vous l'ai dit, l'éole est avancé. Alors il y a des spectateurs qui sont là, qui regardent les roues autant qu'ils peuvent pour voir si elles décollent du sol. On voit pas bien, c'est difficile là où sont placés les spectateurs, mais ce qui est certain, c'est que sur une distance d'environ 50 mètres, il n'y a plus de traces au sol. Et alors, quand il descend son appareil, il est 16h06 exactement, ce 9 octobre 1890, Monsieur Ader considère qu'il a volé. Sur une distance de 50 mètres, l'éole perd terre, écrit-il, avec la seule ressource de sa force motrice. L'avion de Monsieur Ader vient donc de décoller. Alors, on va demander à toutes les personnes qui étaient là de faire un témoignage. Alfred Perrer, qui porte ce nom très prestigieux, dit « J'ai vu l'éole parcourir sur ses roues une courte distance, puis j'ai aperçu l'éole au-dessus des talus qui limitaient la piste à droite et à gauche, ces talus mesurant environ la hauteur des buissons environnants. » Ça fait grand bruit, ça, bien sûr. La presse s'en empare. L'avion va être exposé au pavillon de la ville de Paris, sur les Champs-Élysées, à l'emplacement de l'actuel Grand Palais. Et le président du Conseil, qui est aussi ministre de la Guerre, ça n'est pas neutre, Freycinet, vient visiter l'appareil accompagné de quelques généraux. Autant dire que l'armée commence tout de suite à s'intéresser à l'invention, bien sûr. Ader sera reconnu en France comme le seul et unique inventeur de l'avion. Vous savez qu'il y a des places, il y a des collèges qui portent son nom, etc. Et d'ailleurs, le site d'assemblage de l'A330 et de l'A340 à Toulouse s'appelle justement le site Clément Ader. Mais, et nous allons y venir dans un instant avec Michel Chevalet. Et évidemment, de l'autre côté de l'Atlantique notamment, on n'est pas du tout d'accord. Et on estime que Ader a fait un bond plus qu'un vol, c'est ce que dit François Mathias, réalisé dans le jardin du château d'Armainvilliers en Seine-et-Marne. Et le véritable inventeur de l'aviation, ce sont deux frères aux yeux des Américains qui, en décembre 1903 seulement, à Kitty Hawk, en Caroline du Nord, parviendront à faire voler leur espèce d'avion. Encore l'ont-ils lancé depuis une rampe, c'est-à-dire qu'ils ont finalement fait voler un projectile, peut-être plus qu'un avion. Enfin, tout ça, c'est une vieille querelle. Je me rappelle quand je travaillais pour l'armée de l'air, c'était un de nos grands sujets de débat presque inépuisable. Qui a fait décoller le premier engin plus lourd que l'air? Évidemment, c'est Clément Ader.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et les débuts de l'aviation sont au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, le journaliste scientifique et consultant à iTélé, Michel Chevalet.
Et oui, ce sont des jours comme aujourd'hui où on est heureux d'être sur l'antenne d'Europe 1. J'imaginais Bérangère Bond sur sa moto. Je vous avoue que je suis un peu jaloux là quand même. Ça doit être extraordinaire de suivre comme ça le Tour de France. Quant à vous, Michel Chevalet, alors on est en train de célébrer en ce moment même les 60 ans de notre chère station. Et vous avez connu Europe 1 dès 1955.
Hein, oui, à l'origine, j'étais étudiant, j'étais en seconde de lycée. Les parents écoutaient l'ex-ORTF, hein, c'était une institution, et puis parallèlement il y avait Radio Luxembourg.
Eh oui, bien sûr.
Et en 55...
La petite nouvelle.
Eh oui, qui moi m'a interpellé tout de suite en tant qu'adolescent, hein, sur ce vent, ce souffle de liberté, surtout au niveau un peu des programmes, il y avait beaucoup de musique, on parlait moins. Oui. Et il y avait des animateurs.
Des meneurs de jeu.
Et des meneurs de jeu.
Comme
Mais oui. Et surtout au niveau de l'information. Et au niveau de l'information, il y avait un décryptage, parce qu'il y a eu des grandes pointures journalistiques dans cette maison.
Ah oui, vraiment. Et donc, vous étiez, vous, dans cette émission alors, où on réunissait des jeunes, hein,
c'est alors ça? Alors voilà, il y avait une émission qui s'appelait Europe Jeunesse, Guy Montassu et Pierre Cisser, et ils avaient lancé un appel à la radio où on demande, si vous voulez participer, comme on fait aujourd'hui à l'émission, écrivez. Il n'y a pas de militaire, il n'y avait rien. Hein. Écrivez. Alors donc, moi, j'ai posé ma candidature parce que des fois, il y avait des réponses aux questions, c'était à la mode, vous voyez, des auditeurs, et il y avait des questions qui avaient un rapport avec des connaissances techniques et scientifiques. Alors, j'étais en seconde technique. Je préparais les arts et métiers. J'étais fanat de je voulais faire, je voulais être ingénieur. Je voulais construire. J'étais comme Madère. Je voulais voilà. construire. Et donc, j'ai posé ma candidature. J'ai été reçu. J'ai été appelé. Je suis venu un jour, non pas dans cette grande maison, bon, qui a beaucoup évolué, et j'ai participé, donc, à cette émission Europe Jeunesse. Et, pour la petite histoire, pour finir, 2 ans après, donc, je connaissais très bien Roger Duquesne, qui était un meneur de jeu très brillant, et qui me dit, dis donc Michel, il y a l'émission Musicorama, on n'a personne pour présenter, c'était à l'Olympia, vous voyez. Moi j'avais 17 ans, et je me suis retrouvé un soir à l'Olympia, devant cette salle, à présenter le Musicorama. Voilà. Et ça m'a donné un peu le goût, disons, de la communication et des médias. Oui. Et je dois dire merci à Europe 1 et à l'armée. Parce que c'est durant mon service militaire, mon cher, au journal TAM, que j'ai pris le goût du journalisme. Et puis après, bah, j'ai quitté l'enseignement, j'étais prof.
Et là, c'est votre carrière qui a décollé, c'est pas l'avion.
Exact. Alors,
vous savez que 60 ans plus tard, les auditeurs continuent à nous poser des questions. Et alors là, elles sont très nombreuses, notamment sur cette affaire de l'avion, puisque j'ai dit que le terme avait été inventé par Clément Ader. Et c'est notamment alors Marie, hein, parmi d'autres, Marie-Odile, qui nous dit « Pouvez-vous décoder l'acronyme avion ?» Ce n'est pas un acronyme,
non,
cher...
Non, c'est du mot « avis », hein,
c'est
du latin. « Avis »,
c'est oiseau. C'est l'oiseau, hein,
oiseau,
tout simplement.
Voilà. Et parce que ça volait comme un oiseau, et surtout, ça avait des ailes, bah, disons, de chauve-souris.
Première définition de l'avion, appareil volant imitant l'oiseau naturel. Donc c'est ça, c'est cette idée.
Mais le terme, ce n'est qu'en 1911 que le général Rock a décidé d'appeler les aéroplanes militaires, voilà. Leur donner le nom non pas d'aéroplanes militaires, mais d'avions.
Ce qui était tellement plus facile à dire, bien entendu. Alors, il faut que nous revenions à tous les précurseurs de Clément Ader. On va pas faire la liste parce qu'elle serait infinie, Michel Chevalet. Mais c'est quand même étonnant de voir cette espèce de tension vers un but, cette volonté de tous ces hommes à travers les siècles d'essayer de décoller comme les oiseaux, sans recours au gaz et sans recours au plus léger clair.
Voilà, vous avez bien compris le décor, hein, on est... autour des années 1900. Et les années 1900, il y avait... Le moteur, c'était quoi? C'était le développement tout de même des connaissances techniques et scientifiques. Hein, tout de même, il y avait Eiffel qui avait fait sa tour. Donc une maîtrise de nouveaux matériaux.
C'est l'ingénieur roi.
Oui, oui, absolument. Hein, et Ader était un ingénieur, il ne faut pas l'oublier. Ce fut un excellent mécanicien. Mais il a commis 3 erreurs, hein, je vais y revenir. Donc, en 1900, si vous voulez, la bourgeoisie, parce qu'il fallait de l'argent pour réaliser ça, est passionné pour la mécanique, c'est début du sport automobile, on les plus lourds que l'air, c'était les ballons, l'aérostat, parce que ça permettait de survoler, de voir, de s'affranchir apparemment de la pesanteur, et puis ça permettait de faire du tourisme déjà. Et surtout, il y avait un effet médiatique, souvenez-vous, Gambetta, le siège de Paris, il s'échappe grâce justement à un ballon. Et donc, n'oublions pas la composante médiatique. Et je dis... En 1900, pourquoi la mayonnaise de l'aviation a pris?
Ah voilà, pourquoi maintenant? Pourquoi
faut,
en 1900?
Mon cher, une mayonnaise, il faut des composants, il faut un chef. Voilà. Moi je dirais les composants, un, il fallait d'abord des connaissances scientifiques. Elles arrivaient, mais on maîtrisait mal les techniques du vol. Il fallait de la recherche, donc j'ai dit un, la recherche. Deux, de l'industrie, parce qu'il fallait pouvoir fabriquer des engins complètement nouveaux.
Avec les capitaux qui vont avec aussi.
Et troisièmement, il fallait des capitaux, et les capitaux c'était quoi? Soit... Pour Ader, c'est l'armée qui a payé au début les recherches, soit des mécènes. Et des mécènes, il y en a eu des grands. Il y a eu Deutsch de la Motte, justement, qui était un très grand, qui avait fait fortune dans le pétrole. Et un avocat aussi, qu'il faut pas oublier. Et puis, il fallait, j'oserais dire, un moteur médiatique. Et là, ça a été l'erreur d'Ader. Si vous voulez, Ader a commis, pour moi, 3 erreurs. C'était génial ce qu'il a fait. La première erreur, c'est la forme de son aile. L'aile de chauve-souris,
ouais,
c'était le mauvais
trop
choix.
Trop rabattu.
Entre
oui.
nous, c'était le mauvais choix sur le plan aérodynamique. La deuxième erreur, c'est qu'il était tributaire d'un moteur à vapeur qui est forcément lourd. Très astucieux, il ne pesait que 66 kilos ce moteur.
Hein, on l'avait allégé le plus possible.
Exactement. Et il y avait un énorme radiateur sur le toit parce qu'il fallait condenser la vapeur. vous voyez l'engin que c'était, le courage que c'était. Et puis, surtout, il était dans l'esprit revanchard que vous connaissez bien tout de même. C'était tout de même l'Alsace-Lorraine,
eh ben
le
oui.
côté revanchard. Et donc, il a été c'était l'honneur de la France et la maladie du secret. Et Ader n'a jamais ouvert, je voudrais dire, ses livres et communiqué, contrairement au capitaine Ferber.
Aujourd'hui, voilà. On dirait qu'il était un peu paranoïaque quand même.
Oui, il était paranoïaque. Et à telle enseigne que les témoins, justement, de tout le litige pour son vol, a-t-il réellement décollé? Je crois que oui, il l'a fait, il a volé sur 50 mètres.
Oui.
Mais il faudra attendre Santos Dumont pour faire les grands sauts. Mais un Santos Dumont, lui, avait les médias avec lui, avec les belles, avec leurs ombrelles. Et il avait des témoins. Et il y avait la photo et les débuts du cinéma.
C'était le gentleman volant.
Exactement. Mais Ader, justement, avait fait ça dans une propriété à Grèce, à Mainvilliers, dans un bois. On avait défriché une pelouse. Il a renouvelé l'expérience à Satory. Là, il a fait venir des militaires.
Eh oui, mais manque de chance, là, ça n'a pas marché.
Et voilà. Et l'avion, il s'est vomi, comme on dirait, en bout de piste. Et là, c'était terminé pour lui. Déçu. Mais n'oublions pas, mon cher, c'est que Ader, qui s'était lancé à la construction automobile, il a fait des voitures qui ont très bien marché sur la course Paris-Madrid. Mais Ader était aigri et Ader a fait, c'est ça qui est étonnant, un traité dans un livre en 1909 où il décrit tout ce qui allait se passer dans l'aviation militaire, c'est-à-dire le combat aérien, le bombardement et l'observation aérienne.
Oui, c'est toujours au début des grandes inventions que l'ensemble de leur potentiel est exploré. Ça, c'est toujours étonnant. On va très loin dès le début. Et puis après, il faut des années pour mettre en application, bien entendu. Vous avez cité un nom tout à l'heure, à l'instant même, Michel Chevalet, c'est celui de Santos Dumont. Eh bien, je voulais signaler à nos auditeurs que sur la toute nouvelle chaîne qui s'appelle Aerostar TV, qui est la chaîne notamment de Bernard Chabert, on connaît bien quand même, ici sur l'antenne d'Europe 1, cette nouvelle chaîne Aerostar TV va proposer pendant tout le mois de juillet, en multidiffusion, un documentaire assez extraordinaire sur Santos Dumont, écrit par Bernard Chabert d'ailleurs, 80 minutes pour découvrir ce gentleman.
Bernard est un gentleman de l'aviation, moi je le connais bien, il connaît bien ce milieu, il pilote. Et il a les talents de conteur.
Ah oui, ça vraiment, il fait partager sa passion. Vous aussi, du reste. Nous y venons dans un instant, parce qu'on a parlé de Clément Ader, mais il y a encore tous les autres.
Franck Ferrand, 14h, 15h, sur Europe 1.
Les débuts de l'aviation sont au cœur de l'histoire. Votre invité, Franck Ferrand, est le journaliste scientifique et consultant à ITL, Michel Chevalet.
Beaucoup de questions, Michel Chevalet, notamment via Twitter. C'est Robert qui nous dit qu'il y a une turbine Clément Ader à Charleville-Mézières. L'a-t-il créée? Je crois qu'on peut répondre oui, très probablement. Les travaux de Léonard de Vinci, nous demande Vincent, ont-ils servi d'une manière ou d'une autre à Clément Ader?
Non, c'est l'image, c'était, bon, Léonard est extrêmement prolifique, astucieux, mais il n'avait pas du tout les connaissances mécaniques que l'on pouvait avoir en 1900, un ingénieur comme Clément Ader. Mais tous les deux ont pris comme modèle le vol des oiseaux. Et là, c'était l'erreur. Si vous voulez, le biomimétisme, le biomimétisme conduit parfois à des impasses.
Alors on va parler des frères Wright dans un instant, on ne peut pas y échapper bien entendu, on viendra à Farman, à Santos Dumont, à tous ces grands aviateurs. Mais avant ça, les trois grands pionniers. Bon, Ader, on vient de le voir, mais il y a d'autres pionniers, vous avez tout à l'heure cité le nom du capitaine Ferber.
Eh oui, voilà un militaire, un polytechnicien également, donc vous voyez que c'est quelqu'un qui avait une très solide culture technique, qui était passionné, disons, des aérostats. Et alors, ce qui était très curieux à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas, au sein des armées, il y avait une entité, et c'était un artilleur. Et donc, vous voyez, les gars qui étaient dans les ballons, les aérostiers, d'où les rivalités, c'était des artilleurs. Et l'idée, c'est ça le trait de génie de Ferber, c'est d'avoir, au sein de l'armée, et ça lui a coûté très cher, créé une entité qui est, justement, dédiée à l'aéronautique, en quelque sorte, et avec un centre de recherche à Chalais-Meudon. Meudon, pourquoi? Parce qu'il y avait un hangar magnifique, là où on mettait les ballons. Et lui, il a mis ses premiers avions, enfin ses premiers planeurs qu'il voulait faire. Et surtout, ce qui était génial avec Ferber, c'est qu'il avait tout compris. Il avait dit, toutes ces découvertes, elles doivent servir non pas un homme, mais à l'humanité. Donc c'est l'inverse, vous avez bien compris, de ce qu'a fait Ader. Ader s'est enfermé dans son secret et ne l'a pas partagé, alors que Ferber, lui, voulait que tout le monde participe à ses connaissances. Et notamment, eh bien, il a eu voisin. Le fameux voisin, les frères voisins, sont mis après à construire des avions. Donc c'est ça qui est étonnant.
je ne sais plus si c'est Joffre ou Gallieni qui, peu de temps avant le premier conflit mondial, dit c'est bien joli tout ça, mais ça ne marchera jamais. Hein. C'est, on y,
alors,
y a quand même
des... oui, c'est ça, c'est ça. Les militaires, restons sur les militaires parce qu'ils ont joué un rôle énorme, et surtout, on y reviendra, c'est la guerre de 14 qui a lancé vraiment l'aéronautique industrielle. Parce que là, on était au niveau de, je voudrais dire, des, bon, qu'on appelait les faucheurs de Marguerite, mais de... C'était pas des fous, hein. Attention, c'est pas des fous. Mais c'était tout de même des bricoleurs de génie.
C'est des fous au sens sympathique du mot.
Oui, sympathique. Mais tout de même de très bons mécaniciens. Et surtout, vous l'avez bien compris, la clé de tout cela, pour pouvoir soulever un avion, il faut que les filets d'air défilent sur les ailes, avec une différence de vitesse entre le dessous et le dessus. Et c'est la différence de vitesse qui crée la différence de pression. Et c'est pour ça qu'un avion ne porte pas sur l'air, mais il est aspiré par le dessus de l'air. Mais ça, on l'a compris plus tard. Parce qu'au départ, on a fait des ailes immenses. Vous vous souvenez des énormes planeurs. Aujourd'hui, on dit, mais c'est un A380. On dit, mais attendez, un A380, 350 tonnes, 500 tonnes en charge, ça décolle. Et les ailes font 80 mètres. Eh bien là, eux, ils avaient des ailes de 45 mètres pour 300 kilos. Donc, ils avaient tout faux.
Mais oui, mais
sauf qu'il manquait un moteur.
Et voilà, on a tous fait en cours de physique le fameux triangle des forces. Hein, et il est évident qu'à partir du moment où vous avez une résistance à l'air, hein, et puis par ailleurs une très très grande vitesse, eh bien, il faut combler le triangle. Et donc, ça fait décoller l'avion.
La clé fait la vitesse.
Mais oui, mais sauf que ça, on a mis beaucoup de temps à le comprendre.
Il a fallu que Farman, encore un Français... Face à la théorie de l'hélice, parce qu'on croyait que l'hélice, non, l'hélice, elle fait de l'air, du vent, si vous voulez, et elle crée, c'est un avion à réaction, en fait. L'hélice fait avancer par réaction. Différence de vitesse entre l'air entrant devant l'hélice et l'air sortant. Vous voyez, il ne se visse pas dans l'air, comme
et
on
non,
le croyait
mais
à l'époque.
Oui, voilà, mais
donc
c'est
les travaux de Farman qui ont permis d'améliorer l'hélice. Mais il fallait, c'est des énormes planeurs, il fallait un moteur. Et un moteur, ben, c'est la seule technique qu'on avait, c'est des machines à vapeur. Les moteurs électriques, on les a mis sur un dirigeable France. Ah oui, c'était le début du moteur électrique.
Ça a commencé, là, oui.
Mais les moteurs, eh ben, les moteurs à essence, les moteurs à explosion, ben, on a pris les moteurs qu'il y avait, les petits moteurs, les moteurs de motocyclette. Donc vous voyez, on sait, voilà.
C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de fabricants d'automobiles qui se sont lancés là-dedans.
Pour Henri Levasseur.
Par exemple, oui. Voilà.
Levasseur a fait le fameux moteur L'Antoinette. Du nom de, je sais plus, de
sa belle-sœur. Enfin,
oui, enfin, disons, nous sommes courtois de sa belle-sœur. Et l'Antoinette, prudent, hein. L'Antoinette, c'était déjà un 8 cylindres en V, refroidi à eau, donc c'est très compliqué, non pas à air, mais qui donnait une puissance déjà beaucoup plus importante, c'est-à-dire qu'on passait du cap de la motocyclette directement à des moteurs de voiture. Et là, ça a donc permis quoi? Eh bien, l'avion de Santos Dumont.
Il y a un pionnier dont on n'a pas parlé avant d'arriver à cette génération-là, ouais. C'est Charles Renard.
Ah bah oui, là c'était le côté scientifique. Mais Charles Renard, c'était le scientifique, le chercheur. Il a surtout travaillé sur l'aérostation, c'est-à-dire l'hydrogène. Il a quitté l'air chaud de Pilate de Rosiers, la montgolfière, et pour aller vers le plus léger que l'air, il n'y avait pas l'hélium à l'époque, donc l'hydrogène. Et il a mis au point une machine à fabriquer de l'hélium. Et il a fait, avec ça, le premier dirigeable, parce qu'il a mis des gouvernes, et il a mis un petit moteur pour qu'il puisse se propulser. Donc il y a eu trois, si vous voulez, pionniers en France. Il y a eu ce scientifique, il y a eu Ferber, le capitaine, et puis Adair.
Bien sûr. Alors, tout à l'heure, quand j'ai évoqué les grands concurrents de Clément Adair, un tout petit peu plus tard, sont les frères Wright aux États-Unis, bien entendu. Je vous ai vu faire une moue quand j'ai dit qu'ils n'avaient pas fait un véritable avion, mais plutôt un projectile.
Ah non, ils avaient fait des planeurs. Ah non,
des planeurs,
non, vous êtes
oui.
Durs avec moi. Non. Au début, comme tout le monde, ils ont fait des planeurs. Soit on les faisait tirer par un cheval, soit on montait en haut d'une colline et hop, on se jetait. Ça, c'était le début. Et les frères Wright ont eu toujours le souci de la mécanique, c'est ça la clé. C'est parce qu'ils avaient un moteur de 20 chevaux. Et avec ce moteur de 20 chevaux, eh bien, ils ont permis de prendre assez de vitesse pour, comme les ailes étaient immenses, de pouvoir se soulever. Et ça a été vraiment, il faut reconnaître, vraiment le premier grand saut par rapport à Adair. Là, c'était un bond spectaculaire sur la plage là, en Caroline du Nord.
Alors là, on est en 1903, et Santos Dumont, avec sa propre machine,
1906,
sa libellule, c'est 1906. Hein, donc là, c'est vraiment le moment.
Bagatelle.
Voilà.
Là où il y a la roseraie, à Bagatelle, alors il a fait d'abord 50 mètres, puis 220 mètres, et le coup d'envoi de tout, parce qu'il faut un moteur, mon cher, eh bien, le moteur, eh bien, ça a été de dire, ben, on va faire un prix. Et une belle somme d'argent, Deutsch de la Motte a dit, ben voilà, le premier qui me fait le kilomètre départ arrêté qui revient au point de départ, fait un cercle d'un kilomètre. Vous vous rendez compte, on faisait des bonds Santos Dumont de 220 mètres et on se posait tout de suite parce qu'on est arrivé au bout du champ. Et là, on dit on va faire un kilomètre. Et là, ben, c'est Farman qui
l'a fait. Ça
change
tout, là. C'est Farman.
Là, c'est, ouais. Là, c'est ça qui a tout changé. Je dirais, pour moi, l'impulsion était donnée et nous étions en 1906.
Et ça, c'est Farman. C'est le nom qu'il faut retenir et qu'on a parfois tendance à oublier un peu. En 2009, on a évidemment évoqué le centenaire de l'exploit de Blériot.
C'était moins une... médiatique. Hein, mais... en fait, de vous à moi... On faisait un kilomètre, là il fallait traverser la Manche c'est 30 kilomètres.
Hein. Oui. Enfin, c'est quand même 30 fois plus, hein, voilà. 40 fois plus.
Ouais, c'est vrai. Et le problème, bon, Blériot qui avait fait fortune avec les éclairages des voitures automobiles.
Eh oui.
Des éclairages, attendez.
Avec les phares, quoi.
Les phares, à acétylène. Non, non. Si vous regardez les vieilles bagnoles, moi j'adore ça, il y a sur le marchepied un réservoir, il y avait de l'eau, et l'eau tombait goutte à goutte sur de l'acétylène, et c'était les lampes des mineurs. Et c'est ça, ces veilleuses qui étaient à l'avant, qui éclairaient les voitures. Et on l'a eu dans le chemin de fer, d'ailleurs, de quand il y avait un accident.
Quelle horreur.
Donc, il a fait fortune là-dedans. Et je vous l'ai toujours dit, il faut des ingénieurs, des chercheurs, des industriels et de l'argent. Et l'argent, eh bien, notamment, c'est souvent les gens de l'automobile qui se sont convertis à l'aviation.
Il faut dire qu'il y avait aussi des concours à l'époque. Hein, et que donc, la presse, notamment, offrait des prix à ceux qui accomplissait certains exploits.
Et on a fait le Grand Prix de
Roland-Garros et tout ça.
Voilà, Roland-Garros. Hein. Donc vous voyez, comme je vous disais dans ma mayonnaise, le numéro 4, la composante médiatique.
Ah oui, mais là, elle est essentielle, puisqu'il faut que l'opinion publique soit là derrière. Beaucoup plus tard, lorsque Lindbergh, dans l'autre sens, traversera l'Atlantique, ce sera un des plus grands moments de l'histoire de la presse, tout simplement.
C'est ça,
c'est
ça.
Le début de la radio.
Et avec le début de la radio pour diffuser l'information.
Alors, jusqu'alors, on est dans des avions monoplans. Alors, c'est pour le terme a l'air un peu compliqué,
ah oui,
mais ça veut dire simplement
qu'il y a... Avec Farman, on est biplan, hein.
Alors oui. Farman à biplan. C'est-à-dire que là, on a quatre ailes, d'une certaine manière,
hein. Oui, l'arrivée du monoplan.
Des ailes superposées, devrait-il.
Voilà, des ailes superposées. Là, parce qu'il fallait augmenter la surface de contact avec l'air, hein, c'est tout. Mais ils n'avaient pas d'idée de calcul d'aérodynamique encore. C'est Farman qui a fait les premiers biplans motorisés, donc un Français. Mais il a fallu attendre l'idée de ces Blériot, qui lui a fait du monoplan, une seule aile, un avion très simple, Blériot, avec un moteur, mais Blériot, il n'avait pas de moteur. Et le moteur qu'il a trouvé, à Anzani, un moteur italien, un 3-cylindres, qui consommait énormément d'huile. Et avec ça, il est arrivé à traverser la Manche. C'est le moteur, alors que le concurrent, lui, il avait le moteur, l'Antoinette, de Levasseur, et il a fini, bouf, dans la flotte. Vous voyez, la clé, c'était le moteur. Donc, j'en reviens, le monoplan Blériot, puis après, il y a eu les Morane-Saulnier, et surtout l'idée, ça a été de mettre l'aile, non pas le pilote au-dessus de l'aile, comme les premiers, ça a été de mettre l'aile comme un parasol, on appelait ça, au-dessus du pilote. Et l'avantage, vous l'avez bien compris, eh bien, quand vous pilotiez, vous pouviez voir le sol,
et
la terre.
Oui, voilà. Ça ne vous cachait plus le paysage.
Qui était le premier utilisateur de cela ?
Évidemment, les militaires.
Eh bien évidemment. Et ça a été le grand essor de cette aviation, parce que les militaires ont enfin compris tout le parti qu'ils pouvaient tirer de l'aviation pour faire quoi ? D'aller regarder ce que peut préparer le copain. Et si la bataille de la Marne, qui est très chère à Franck, a été gagnée, la première bataille de la Marne, hein,
ah ben oui.
C'est parce que, avec une escadrille aérienne, on a vu que les troupes allemandes voulaient contourner les troupes françaises et les encercler. Mais au début, les militaires disaient, non, ils disent des bêtises. Eh ben non, Joffre a dit, et ça l'a fait basculer, là il a dit, l'aviation, c'est capital.
On peut dire que l'aviation va totalement changer le sort de la Première Guerre mondiale. Hein, c'est une transformation totale au milieu même de la guerre. Mais avant d'en arriver là, n'oublions pas que l'avion aura été un instrument de révélation personnelle, un instrument de défi pour les nouveaux chevaliers du ciel, n'est-ce pas ? À travers les fameux meetings, les grandes réunions qui avaient lieu, etc. Il faut imaginer nos ancêtres en 1900, les yeux constamment tournés vers le ciel à la recherche d'aéroplanes.
Hein. On allait voir, mais bien sûr. J'ai retrouvé dans la littérature, par exemple pour aller à Reims, le chemin de fer de l'Est de l'époque avait fait construire une gare, vous vous rendez compte, pour 150 000 visiteurs, pour aller voir ces fous volants, qui ont battu d'ailleurs un record de vitesse, puisque c'est un Américain qui était là, et il a battu le Français, et il a volé à 88 km/h. Fascinant. Et vous vous souvenez aussi, il y avait une dame qui était accrochée sur l'aile de l'avion, vous vous souvenez? À l'époque, on faisait des calipettes. C'est-à-dire qu'il y avait, à cette époque-là, entre les années, disons, 1910-1914 jusqu'à la guerre, il y avait tous les ingrédients de l'aéronautique moderne. Les avions, bon, étaient plus puissants, beaucoup plus maniable parce qu'il y avait commande de vol, parce que c'est un Français, Hénaud Pelletri, qui avait supprimé le volant,
et oui,
ah oui, on
et
copiait oui. l'automobile, pour mettre ce qu'on appelait le manche à balai.
Hénaud Pelletri, il faut dire son nom.
Hein, et oui, qui est un Français, et qui était le début des premières fusées françaises, c'est lui, vous voyez. On a eu des grands bonhommes, hein, tout de même.
Mais on parlera des fusées une autre fois, si vous voulez,
oui,
avec grand plaisir, Michel Chevalet, et on vous retrouve en attendant, bien entendu, sur iTélé.
Surtout quand des avions tombent, hein, d'ailleurs.
Ah oui. Mais il faut dire que c'est l'exception de l'exception,
oui.
hein, quand même. Ne l'oublions jamais.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et Franck Ferrand, vous répondez à la question de Lorane qui vous demande, via le site internet d'Europe 1, europe1.fr, quelles sont les origines du chiffre 7 et 5 comme porte-bonheur et 4 et 13 comme porte-malheur?
Alors d'abord, il faut être tout à fait relatif sur ces questions, hein, parce que le 5 porte-bonheur dans certains endroits, pas dans tous, mais c'est vrai qu'il y a, je ne veux pas rentrer dans toute la théorie du pentagramme, mais il y a dans ce chiffre 5 une forme de plénitude d'accomplissement qui a d'ailleurs une dimension humaine aussi, hein, la tête et les membres en quelque sorte, ou le cœur et les parties. Bon, et donc ce chiffre 5, c'est vrai qu'il est globalement bénéfique, et en Afrique du Nord notamment, vous savez que c'est la référence directe à la main de Fatma ou de Fatima, symbole de chance, notamment dans les populations berbères, juives, arabes. Cette main est associée aux 5 doigts de la main aussi, tout simplement, et elle protège du mauvais œil. Bon, le 7, alors pourquoi est-ce que le 7 porte chance? D'abord, le 7, c'est un nombre plutôt magique que bénéfique spécialement. On parle aussi bien des 7 péchés capitaux que des 7 merveilles du monde. Il y avait dans la gamme initiale 7 notes de musique, il y a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Si vous regardez bien, il y en a beaucoup plus que ça, mais on les a réduites à 7, résumées à 7. Bref, il y a cette dimension en quelque sorte cosmogonique dans le 7 qui va pouvoir, sous certaines conditions, donner à ce chiffre qui va faire qu'à ce chiffre s'attache une croyance ou une superstition de porte-bonheur. Le nombre 7, par ses vertus cachées, maintient dans l'être toute chose, écrivait Hippocrate, à une époque où l'empirisme et la science ne faisaient encore très bon ménage. Il dispense vie et mouvement, et il influence jusqu'aux êtres célestes, disait donc Hippocrate. Vous savez que ce chiffre 7 est particulièrement présent dans la Bible, hein. Il y a même des études qui portent essentiellement là-dessus. Alors, pour ce qui est néfaste maintenant, les chiffres qui sont censés porter malheur, hein, tout ça est très, encore une fois, on sait qu'au Japon, par exemple, faut pas parler de 4. Vous savez que la 4L avait été rebaptisée, hein, parce que, en fait, évidemment, à partir du moment où il y a le mot 4, c'est fini, hein. Parce que en japonais, 4, ça se dit yon, ça veut dire la mort. Même chose d'ailleurs en mandarin. En mandarin, la mort, c'est chi, et c'est, à peu de choses près, c'est la même chose que le 4. Alors, la question serait de savoir pourquoi on a donné à ce chiffre le nom de la mort. Ça nous entraînerait vers des considérations très ésotériques, d'un très haut niveau spirituel, qui me dépasse très largement dans le cadre de cette émission. Et puis alors le 17, pour finir avec la question de Lorane, pourquoi le 17 est-il un chiffre porte-malheur? Eh bien parce que 17, vous savez qu'en latin, en alphabet romain, ça s'écrit XVII, et c'est l'anagramme de Vixi. Wixi, si vous voulez, si on veut parler comme maintenant, et qui veut dire j'ai vécu, Wixi. Et quand j'ai vécu, c'est que je suis mort.